Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Alinda Ouedraogo.
Madame, messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, des jeunes du CDP demandent la démission du président du parti, Eddy Kombiogo. Ils l'ont réaffirmé hier pour dénoncer sa gestion qualifiée de chaotique. À la une également, la 4e édition du Forum national de la cohésion sociale à Zignaré, une rencontre pour apprendre des uns et des autres en vue de la construction d'un monde meilleur. En Sierra Leone, l'explosion d'un dépôt de carburant fait au moins 92 morts et 88 personnes gravement brûlées. Et puis en fin d'édition, on parlera de la photographie avec notre invité du jour. Il s'agit de Ibrahim Nikema, alias Paparazzi, le promoteur des rencontres internationales de la photographie de Ouagadougou, prévues du 10 au 15 novembre prochain. Voilà pour vos titres une fois de plus. Bonsoir et bienvenue pour cette édition. On parle de sécurité pour ouvrir ce journal. 4 soldats ont été blessés dans l'attaque du détachement militaire de Tankwalou à l'est du pays dans la Komondjouari dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé l'agence d'information du Burkina AIB. Au moins 10 terroristes ont été abattus dans la Komondjouari, indique le communiqué de l'AIB. Et puis politique, à la suite des jeunes du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, à travers le secrétariat national, décrivent la gestion de leur président Eddy Kombiogo, qualifié de chaotique, et réclament sa démission. Ils l'ont fait savoir hier vendredi lors d'une conférence de presse organisée à Ouagadougou. Ils lui reprochent également d'être complice du massacre des populations du Burkina à travers son silence. Abdulaziz Zoulabou pour plus de détails.
Nous, on a décidé d'assumer notre responsabilité. Nous n'allons pas laisser Eddy détruire le CDP.
C'est l'avis du secrétariat national de la jeunesse du CDP qui fustige la gestion actuelle de la crise sécuritaire et déplore la passivité de leur président Eddy Kombiogo. Ils estiment que ce dernier ne joue pas non seulement son rôle de chef de file de l'opposition qui est de critiquer ce qui ne va pas, encore moins celui du président du CDP. Abdul Karim Baguian, 4e secrétaire national adjoint de la jeunesse.
Est-ce que vous pensez que quelqu'un de sensé, qui a une casquette de chef de file de l'opposition, qui a une casquette d'un grand parti comme le CDP, dise que ce que nous vivons aujourd'hui, la situation n'est pas assez pourrie pour qu'on tienne des conférences de presse pour dénoncer la malgouvernance? Et ce jour, je continue en disant que je prends mes deux camarades en témoin. On a discuté avec le président et dit plus d'une heure pour le convaincre de nous laisser tenir la conférence de presse.
La crise au sein du CDP a perduré et cela a pour conséquence la démission de plusieurs cadres du parti, chose qui est inadmissible pour ces jeunes. Adama Tiendribeogo, 2e secrétaire national adjoint de la jeunesse.
Le président Blaise Compaoré, président d'honneur, président fondateur du parti avec son statut de haute hiérarchie des instances du parti, a écrit une lettre au camarade président Eddy Kombiogo. Sur notre situation. Cette lettre est passée dans vos mains, chers journalistes. Malgré tout cela, le président Eddy Kombiogo discute de l'authenticité de cette lettre de la lettre du fondateur. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le président du CDP a de sérieux problèmes avec les autres leaders du parti et aussi avec la jeunesse.
Une marche prochaine est annoncée dans la foulée pour réclamer la démission du président du CDP Eddy Kombiogo dans les jours à venir.
Et puisqu'on parle de politique, après sa démission en septembre du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, Luc Adolphe Thiaw, dernier premier ministre de Blaise Compaoré, vient de lancer son propre parti, le Rassemblement patriotique pour le développement, RPD. Pourquoi a-t-il quitté l'ex-parti au pouvoir? Que recherche-t-il vraiment en créant le RPD? Des questions auxquelles Luc Adolphe Thiaw répondra demain dans votre émission Dimanche politique. Dimanche politique, c'est à partir de 9h sur Radio Oméga et Oméga TV, ainsi que notre page Facebook Radio Oméga. Toute autre chose à la suite de ce journal, on parle intégration des peuples. facteur de cohésion sociale. C'est sous ce thème que se tient la 4e édition du Forum national de la cohésion sociale. À travers ce forum, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur vise la restauration d'un climat propice à la cohésion sociale et harmonieuse entre les différentes communautés vivant au Burkina Faso. Cette année, c'est la ville de Zignaré qui est choisie pour l'habiter. Il se déroule du 5 au 6 novembre. Le compte-rendu est de Moumouni Tamboura et Yakuba Wilio.
Maître Passeri Titenga, parrain de cette cérémonie, montre l'importance et la nécessité de la cohésion sociale.
Le voisin d'un homme, c'est son plus grand médicament. C'est-à-dire, il faut toujours chercher à s'entendre avec l'autre, sinon même à s'intégrer et que cela soit réciproque pour être plus fort. C'est pour cela que le fait d'avoir institué un ministère délégué à l'intégration, c'est génial. Sachez que j'ai trouvé des ambassadeurs, des délégués dans des coins reculés. Rien n'est tel, parce que nous apprenons toujours de l'autre. L'autre aussi a besoin de nous. Si Dieu a créé la terre, c'est pour que les hommes s'entendent et soient heureux et construisent la terre ensemble. C'est pour cela que ce qui nous réunit aujourd'hui est au centre de tout. C'est la vision de la construction d'un monde meilleur.
Pour les communautés des pays de l'espace UEMOA résidant au Burkina, cette intégration est une réalité et représente une valeur à préserver. Patrick Nitieu, secrétaire général adjoint de la coordination des communautés vivant au Burkina Faso.
Le Burkina, c'est l'exemple parce qu'on se déplace souvent pour des contraintes, mais quand on s'installe vraiment et quand on est dans son aise, dans toute sa liberté sociale, culturelle, religieuse et on est dans sa liberté familiale, je pense que c'est la magnificence de l'intégration.
Un panel d'échange sera développé sur des thématiques comme intégration et défis sécuritaires. Quelle approche pour une région prospère sécurisée et quelle contribution de l'intégration africaine dans le processus de réconciliation nationale.
Et puisqu'on parle de cohésion sociale, on parle de cette fois-ci de parenté à plaisanter qui participent aussi à la cohésion sociale. Les peuples Dafi et Bobo, trois parentés à plaisanterie, ont bien voulu célébrer la journée des communautés ensemble vendredi à Ouagadougou. Durant trois jours, ces parents en plaisanterie vont vivre ensemble. Une occasion pour eux de valoriser cette richesse ancestrale, source de paix, pour valoriser la cohésion sociale et le bon vivre ensemble. Compte rendu, Valérie Guéry.
Dis-moi, c'est un pointu ?
C'est une histoire entre un peul et une bobo. Elle vous fait rire? Eh bien, vous avez raison. Nous sommes à la journée des communautés, une journée célébrée par trois communautés que sont les bobos, les peuls et les dafi. Ils sont venus valoriser ensemble une richesse ancestrale qui est la parenté à plaisanterie. Daouda Diallo, représentant du ministre des Affaires étrangères.
Cette parenté à plaisanterie n'a pas été instituée par nos ancêtres pour rien. Cela a une belle raison. Parce que la parenté à plaisanterie est un régulateur social. C'est pour cela que nous pensons que cette valeur-là doit être portée partout. Elle doit être vulgarisée, elle doit être transmise de génération en génération pour permettre à notre pays et tout autour de nous.
Entre Peul, Bobo et Dafi, l'ambiance est bonne en cette journée des communautés. C'est l'occasion pour ces trois peuples d'utiliser la parenté à plaisanterie comme outil de paix et de cohésion sociale, surtout dans un contexte sécuritaire et sanitaire difficile. Noho Traoré, président de l'association Dafi, Bobo et Peul.
Nous avons comme cheval de bataille la promotion de la culture de notre communauté et également promouvoir la paix à partir de la parenté à plaisanterie.
Durant trois jours, ces trois parents à plaisanterie vont communier au palais de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Guingané sous le thème « Pratique de l'alliance et la parenté à plaisanterie pour un Burkina Faso réconcilié ».
Dans la suite de l'actualité nationale, on fait un zoom sur une femme qui fabrique des sacs de luxe glamour faits à base de Fassoud Anfani. Elle est détentrice de la marque Kitak Création qui est basée à Douala au Cameroun où elle vit. Christelle Traoré nous parle de son activité à Expo Yelba 2021 qui se tient depuis trois jours du côté de la salle de conférence de Ouaga 2000. Valérie Guéry pour le compte rendu.
Il y a quatre ans, Christelle Traoré s'installait au Cameroun, loin de son Faso. À Douala, où elle vit désormais, elle lance sa propre marque. La maroquinerie devient son domaine de prédilection. Pour elle, et le cuir et le textile africain n'ont plus de secret. Christelle Traoré, promotrice de la marque Kita Création.
Le Faso d'Amfani, parce que je suis originaire du Burkina Faso, même si je suis pas, je porte toujours le Burkina en moi, je souhaiterais de tout mon cœur être une ambassadrice du Burkina à l'étranger où je vis. Kita Création, aujourd'hui, c'est une marque déposée à l'OAPI qui travaille essentiellement le textile africain. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, je suis venue avec des sacs faits en Faso d'Amfani.
Kita Création, c'est le nom de la marque lancée par Christelle. Signe distinctif, le Faso d'Amfani comme matière première. Avec ce cachet particulier, les produits de son stand ne passent pas inaperçus à Expo Yelba où elle présente. Des sacs de luxe, chic et tendance, faits pour les sorties, de quoi captiver la clientèle. Christelle Traoré, promotrice de la marque Kita Création.
Je fais essentiellement des sacs de sortie, des sacs avec du Faso d'Amfani brillant, quelques-uns en mat parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse les porter dans des soirées chic et tendance.
Christelle Traoré est à sa première participation à Expo Yelba. Son espoir à faire de bonnes affaires à cet événement qui est à sa deuxième édition et qui se poursuit jusqu'au 7 novembre à la salle de conférence de Ouagadougou.
Et puis à noter ce rendez-vous du groupe Omega Media, l'émission Tribune qui reçoit pour vous demain dimanche à partir de 20h30 l'activiste panafricain Mwazalu Dibamsa Siwa Lemba, porte-parole internationale du mouvement Unité, Dignité, Courage, auteur du livre Le tambour de la révolution africaine achevée. Il est pleinement engagé dans l'éveil des consciences comme par exemple la lutte contre le franc CFA. Il ne manque d'argument pour dénoncer cette monnaie. Mwazalu Dibamsa est au micro de Wesan Louis-Houlon.
On se décide d'aller à Chamalières. À Chamalières, en France, où se trouve l'unité de production de la dite monnaie. Où est fabriqué le franc CFA? Parce que c'est là-bas qu'est fabriqué le franc CFA. Et le peuple du Burkina Faso, et le peuple du Mali, et le peuple du Congo-Brazzaville, et le peuple de la République centrafricaine, et le peuple du Togo, tous payent à peu près 415 millions d'euros pour la fabrication de cette monnaie, l'achat des timbres, et puis il faut rapatrier les billets ici. Donc voilà comment est-ce qu'on est en train de faciliter la liquéfaction d'un État. Parce que parmi les éléments constitutifs d'un État, il y a notamment cette souveraineté, d'où l'État se dote de moyens de la création de sa monnaie. Premier attribut principal de la souveraineté d'un État. Donc, nous nous sommes dit, il faut que le peuple maintenant décide de l'avenir monétaire de l'Afrique. Le combat contre le franc CFA, en réalité, un combat pour la souveraineté monétaire a été engagé. Nous sommes allés à Chamalières, et à Chamalières, ces jours-là, nous avons justement aller au-delà de deux interdits. Le premier, c'était l'interdiction de fouler les portes de la Banque de France, sous peine de 150 000 euros d'amende et de 7 ans d'emprisonnement ferme. Le deuxième, c'était ce qu'on craignait, justement, la répression des dirigeants africains si on venait à brûler des coupures. Et ces jours-là, en 2015, toutes les coupures du franc CFA ont été symboliquement brûlées. Parce que dans notre réflexion, il était question justement de s'attaquer aux symboles, comme l'ont fait nos dévanciers, Nelson Mandela et tant d'autres. Il fallait s'attaquer aux symboles. Donc nous avons posé cet acte-là. Et c'est en partant de cet acte-là que les jeunes Africains, d'abord sur la place parisienne, les jeunes de la diaspora historique, c'est-à-dire tous ceux qui ont été déportés, qui se trouvent en Martinique, Guadeloupe, aux Antilles et tout, ont vu que le peuple pouvait faire quelque chose là où les dirigeants n'arrivent pas justement à agir. C'est là que l'essor est parti et je dirais la scisse d'une conscience collective avec tous ceux qui sont venus après, des camarades qui ont suivi la même dynamique pour justement porter ces questions-là autour de la monnaie coloniale du franc CFA qui a participé à la scisse d'une conscience collective. Donc notre organisation était allée dans ce sens à Chamalières pour briser justement le tabou, pour démystifier, si l'on veut dire, une question qui était tenue par le seul technocrate, le seul technicien et le seul théoricien. La stratégie des 3T.
L'intégralité de cette interview est à suivre demain dimanche à 20h30 dans l'émission Tribune sur l'ensemble des supports du groupe Omega Media. Or, Encore de chez nous, 11 soldats ont été tués et 9 autres portés disparus lors d'une attaque djihadiste contre une position de l'armée à Dayen, dans l'ouest du Niger, une zone endeuillée en début de semaine par la mort de 69 civils dans une embuscade, a annoncé le gouvernement hier vendredi. Le Niger entame son deuxième jour de deuil national de 2 jours décrété vendredi en hommage au massacre de 69 personnes dans la région de Tillabéri. Et puis en Sierra Leone, l'explosion d'un dépôt de carburant a fait au moins 92 morts et 88 personnes gravement brûlées. L'incident a eu lieu au soir du vendredi 5 novembre, selon le vice-président Sierra Leone qui s'est rendu sur place ce samedi. Cela s'est passé dans la zone industrielle de Wellington, à l'est de la capitale Freetown. Une équipe de l'agence devait, avec la mairie, procéder à l'évaluation de la situation et des besoins. Et puis en Éthiopie, Washington a ordonné ce samedi le départ du personnel non essentiel de l'ambassade américaine ainsi que de leurs proches dans le pays. Ce en raison du conflit armé, de troubles civils et de possibles pénuries, explique la diplomatie américaine dans un communiqué. 9 groupes rebelles ont annoncé vendredi la création d'une alliance contre le gouvernement du premier ministre Abiy Ahmed et menacent de marcher contre la capitale.
Omega Sport.
Ce samedi, le Tour du Faso a abordé son avant-dernière étape longue de 128 km entre Manga et Zignaré, une étape remportée par le Camerounais Artus Tella. Des détails avec Ibrahim Bayili.
Cette 9e étape du Manga Ouaga, d'une distance de 128 km, a été couverte en 2h37 minutes 38 secondes, soit une vitesse moyenne de 48 720 km. Elle fut l'affaire du Camerounais Tella Astuce Jodelé, qui coiffe au poteau le Sud-Africain Samuel Mugisha et Brahim Anana de l'équipe régionale du centre. Le maillot jaune, vous le savez, reste sur les épaules de Bichelman Daniel. Le maillot vert est enfilé par Wouters Rutger, alors que le maillot rose reste à Hamza Yacine. Quant à Paul Dumont, il conserve le maillot du plus jeune de la compétition. Deux sprints intermédiaires étaient au programme de cette étape à Combissiri. Et c'est le Hollandais Traverse Géry qui l'emporte. Et la deuxième sprint intermédiaire, le deuxième sprint intermédiaire donc, a été remporté par Brahim Anana de l'équipe régionale du centre. Dernière étape demain entre Combissiri et Ouagadougou.
L'invité du jour. L'invité du jour.
La 6e édition des rencontres internationales de la photographie de Ouagadougou Focal se tient du 10 au 15 novembre prochain à Ouagadougou. Cette édition se tient sous le thème « La photographie, outil de résilience du secteur touristique face aux crises sécuritaires et sanitaires ». Un entretien avec le promoteur de l'événement Ibrahim Nikema, alias Paparazzi, qui nous a permis de lever un coin de voile sur ce festival. Il répond aux questions de Romain Adama Ouari.
Quelle est l'importance de la photographie dans la vie de l'homme?
La photographie, elle est très importante dans la vie de l'être humain. C'est l'image. L'image a été toujours importante dans la vie d'un homme.
Quel bilan faites-vous de l'édition passée?
En termes de bilan, c'est un bilan positif parce que depuis 2016, l'année à laquelle nous avons lancé la première édition, en termes de bilan, nous sommes très très satisfaits parce que quand on veut voir ce que nous avons eu comme formation à l'endroit de ces jeunes photographes que nous formons, nous avons une trentaine aujourd'hui qui ont été formés par notre structure associative, la Pixel 24, une trentaine qui sont devenus des photographes professionnels. Tant sur le plan national qu'international, parce qu'il faut dire qu'il y a des photographes que nous avons formés, qui sont des photographes de presse, qui sont des photographes de mode, qui sont des photographes commerciaux, des photographes institutionnels.
La photographie, outil de résilience du secteur touristique face aux crises sécuritaires et sanitaires, c'est le thème que vous avez retenu cette année. Qu'est-ce qui a guidé le choix de ce thème?
Au Burkina Faso, ce que nous vivons, c'est vraiment déplorable. D'où nous nous sommes dit que la photographie peut être l'outil, n'est-ce pas, de résilience face à ces crises sécuritaires et sanitaires. En somme, nous voulons dire que malgré cette situation de crise sanitaire et sécuritaire que nous vivons au Burkina Faso particulièrement, nous pouvons toujours œuvrer à ce que le tourisme ne disparaisse pas. Avec la photographie, nous pouvons amener ces sites touristiques-là auprès de la population, auprès des consommateurs, et vivre toujours de cette passion du tourisme et la culture que nous avons voulu toujours œuvrer.
Quel sera le contenu de cette 6e édition?
Comme activité, nous aurons la formation photo, le concours photo, l'exposition photo et la rue marchande, une rue photographique si vous voulez. Il y aura également des rencontres professionnelles que nous allons essayer de dégrainer la problématique que vit la photographie dans son ensemble.
Avec le développement des nouvelles technologies où on peut faire des photos avec des appareils, téléphones, est-ce que le métier du photographe n'est pas menacé?
L'art de la photographie n'est plus jamais être menacé. La vie du photographe ne fait que s'améliorer. Quand les gens disent que l'avènement du numérique a tué la photographie, je dis non, c'est faux. C'est une évolution de la chose. Vous convenez avec moi que même les voitures que nos parents ont roulées dans les années 60, ce n'est pas les mêmes véhicules. Même la façon de traiter l'eau à boire il y a 60 ans, l'eau que nous consommons n'était pas traitée comme vous le constatez aujourd'hui. Les maisons, l'architecture n'est pas de la même architecture que nous avons connue dans les années 60 ou 50. Donc, pourquoi voulez-vous que la photographie ne se développe pas, n'évolue pas? Donc, c'est tout à fait normal. Et si ça évolue, ça y va avec cette tendance-là, d'évolution-là, qui permet à ceux qui acceptent de suivre l'évolution, le développement de l'outil de photographe-là, s'adapte à la chose et s'en sorte. Si aujourd'hui vous trouvez qu'il y a des smartphones qui font des belles images et vous voulez les comparer à un appareil photo et reflet, vous vous trompez, c'est pas pareil. J'ai toujours dit que le fabricant de ces appareils-là, ils sont pas fous. C'est un business qui est derrière ces usines qui fabriquent ces produits-là. L'appareil photo n'est pas une copie d'un smartphone, c'est un outil à part, c'est deux choses différentes. Voilà.
À cette édition, on aura également le grand concours de la photographie. Comment cela va se passer concrètement?
Il y aura un jury et c'est dans ça qu'on aura en ce moment-là le focal d'or, qui est le prix majeur, le focal d'argent, qui est le deuxième prix, et le focal de bronze, qui est le troisième prix. Il y a aussi des prix spéciaux, qui sont les focales d'honneur que nous décernons aux combattants pour l'émergence de la photographie. Donc, il y a d'autres prix spéciaux, il y a le focal de la diaspora. Et aussi, on n'oublie pas les mots, nos devanciers qui ont œuvré pour la photographie, qui ont travaillé pour que la photographie soit un métier à part entière, un corps de métier comme tout autre. Et ces gens-là ne sont pas oubliés, d'où nous décernons des focales d'hommage. À titre d'exemple, nous avons décerné un focal d'hommage à feu Ousmane Nkema, qu'on appelait photo rapide. Une année, il y a eu le focal d'hommage aussi que nous avons décerné également à feu photo luxe. Il y a eu le focal d'hommage calmement en 2016, qui a été décerné à Malik Sidibé, qui était un monument de la photographie à Bamako, qui est décédé.
Ibrahim Nkema, merci.
C'était l'invité de la rédaction.
À l'instant, notre invité Ibrahim Nkema, alias Paparazzi, promoteur des rencontres internationales de la photographie de Ouagadougou. La 6e édition est prévue pour se tenir du 10 au 15 novembre prochain à Ouagadougou. C'est la fin de ce journal réalisé par Edwige Tiendrebougou. Le relais web est assuré par Charles Da. Excellente soirée à vous et merci de nous avoir suivis.
Radio Omega, l'info en direct.